Relisant ce qui s'est passé en l'espace de quelques heures, je me suis dit qu'on pouvait en parler cet après-midi et que ça devrait vous encourager. En tous les cas, je le souhaite. Mais en même temps, en regardant ce qui s'est passé dans la vie de Jacob, puisque nous parlerons de cet homme qui s'appelle Jacob, j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle il s'est passé quelque chose chez lui, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et ça m'a fait penser... J'ai jamais regardé cette série-là, mais j'ai entendu dire, et apparemment ça a fonctionné pendant des années, qu'il y a une série télévisée qui s'appelait 24 heures. 24 heures chrono, 24 heures, c'est ça ? Ouais. Donc, si j'ai bien compris le synopsis, en 24 heures, on règle une histoire de trafiquant, de ceci, de cela. Donc, 24 heures. Bon, c'est ça ? Nathan ? Oui, non, mais c'est pas grave, tu peux la connaître. Ouais, d'accord. Ça avait l'air affirmatif, donc je te regarde. Donc voilà. Imaginez, tiens, ça me fait penser. Je ne suis pas tout le temps devant ma télé, mais la pub nous obsède souvent. Imaginez, certains ont imaginé que leur banque allait pourvoir à tous leurs besoins. Imaginez que en 24 heures, à partir de maintenant, il est 15h20. Demain, à 15h20, tout a changé, tout ce qui ne va pas a changé dans votre vie. Dites, c'est pas intéressant quand même ? En 24 heures, allez, toutes les difficultés, tout ce dont on n'arrive pas à se débarrasser, tout ce qui nous enquiquine, tout ce qui nous gêne, 24 heures. Mais c'est les plus belles 24 heures de votre vie, hein ? Non, je ne vous parle pas de vous débarrasser de celui qui vous a enquiquiné ce matin, hier ou avant-hier. Non. Celui-là, vous le gardez, hein, votre conjoint, vous le gardez. Hein. Mais je parle des problèmes, une maladie, par exemple. Une maladie. Quelquefois, on aimerait que ça disparaisse en 24 heures, mais il ne suffit pas de claquer des doigts, comme on dit. 24 heures. 24 heures, c'est tellement rapide. Tellement rapide. Tenez, tout à l'heure, je sors de la salle en sac, je vois Fernand. Je vois Fernand et Florence, et je les vois, je dis, c'est pas possible, ils sont déjà là. Ils sont partis 3 semaines en vacances, j'étais persuadé qu'il leur restait encore 1 semaine. Vous êtes déjà là, ça fait déjà 3 semaines? Ils m'ont dit, ben oui. Hein. 24 heures, c'est plus court que 3 semaines, 24 heures. Alors je vous mets au défi, cet après-midi, d'imaginer tout ce qui peut arriver en 24 heures. Certains, d'ailleurs, ont souvent gardé ça dans le mauvais sens. Hein. Quand j'ai vu tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'est tombé dessus, en l'espace d'à peine 24 heures, j'en reviens pas. Moi, je voudrais qu'on fasse le chemin inverse et que des problèmes, des difficultés, du malheur, on aille plutôt vers la guérison, la délivrance, la liberté, et tout ça simplement en 24 heures. C'est ce qui s'est passé. Je dis 24 heures, c'est même moins que ça, finalement, pour Jacob. Mais il y a eu un jour, le jour d'avant, et il y a eu le jour d'après, et au milieu, il y a eu la nuit. Donc on va s'arrêter sur cette belle expérience. Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28, et à partir du verset 10, quelques humoristes étaient revenus sur, vous savez, ces espèces de publicités que vous recevez dans vos boîtes aux lettres, un petit papier, problème d'argent, problème de ceci, problème de cela, etc., retour de l'être aimé, on arrange tous vos problèmes, et l'humoriste de rajouter en 24 heures chrono, hein, sinon remboursé. Voilà, les gens aiment la rapidité, ils ont besoin de choses rapides, et c'est ce que l'on va lire dans Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il y versa de l'huile sur son sommet, et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de mon Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Jacob a besoin de régler ses problèmes. Premièrement, Jacob a besoin d'être guéri. Deuxièmement, Jacob a besoin de changer de vie. Troisièmement, tout ça, ça ne peut pas arriver en 24 heures. C'est pas possible. Certains diront que pour changer, il faut toute une vie. Et encore, à la fin de sa vie, on n'a pas tout réussi. Il y a encore certaines choses qui ne fonctionnent pas très bien. D'autres vous diront que, ben voilà, pour être guéri, il faut suivre une thérapie. Ça va prendre un certain temps, c'est normal. Et puis, que dire, en ce qui concerne les problèmes, comme disait un homme célèbre, en général, il vole en escadrille. Donc il n'y en a jamais qu'un, il y en a toujours plusieurs qui arrivent en même temps. Et c'est quand même assez douloureux. Alors c'est un défi, me semble-t-il, au-delà du raisonnable, que de pouvoir tout changer en 24 heures. C'est un défi pour nous. Mais je voudrais vous montrer cet après-midi que ce n'est pas un défi pour Dieu. Pour Dieu, c'est largement faisable. Pour Dieu, c'est facile. Il peut tout changer en même pas 24 heures. Et pour reprendre une expression qu'on trouve au début de la création, même si on n'est pas sur des heures de notre temps à nous, la Bible dit qu'à chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il y a eu la fin de quelque chose et il y a eu le commencement d'autre chose. Et je voudrais que cet après-midi, ce soit la fin d'une chose, mais que ce soit immédiatement le commencement d'une autre chose. Que ce soit la fin de votre malheur, la fin de votre détresse, la fin de vos angoisses, la fin de vos craintes, la fin de toutes vos peines, et que ce soit le commencement de la joie, le commencement de la paix, le commencement d'une vie nouvelle, le commencement de la tranquillité, de la sérénité, que ce soit la fin, un soir, et que ce soit un commencement, un nouveau jour. Alors, on va voir avec moi que le jour d'avant, parce que pour qu'il y ait le jour d'après, il faut qu'il y ait le jour d'avant n'était pas heureux pour Jacob. On n'a pas lu ce qui précède, mais si vous l'aviez lu, ne serait-ce que du verset 1er au verset 9, vous auriez vite compris en quelle situation se trouve cet homme Jacob. Jacob, il s'enfuit. C'est un recherché, il n'est pas encore repris. Mais en tous les cas, il s'enfuit parce que c'est quelque part un criminel. Il a fait du tort. Vous savez qu'il ne suffit pas, entre guillemets, de tuer quelqu'un pour être un criminel. Vous pouvez, avec vos mots, tuer quelqu'un. C'est tout aussi criminel. Ça fait tout autant de mal, d'ailleurs. Donc, cet homme est un criminel. Quel est son crime? Tout simplement d'être un voleur, ce qui est déjà pas mal. Qui plus est sans état d'âme. Et en plus, au sein même de la famille, donc menteur, tricheur, voleur, ça fait un peu beaucoup quand même. Surtout que là, on n'est pas en train de regarder à une histoire d'enfant. C'est pas un garçon qui va dans la chambre piquer un jouet de son frère. C'est beaucoup plus grave que ça. Le texte nous dit que Jacob, quelque temps plus tard, va usurper, va voler à son frère ce qui était reconnu comme la chose la plus précieuse. La bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, ça en ferait sourire peut-être plus d'un, mais la bénédiction de Dieu, ça n'a pas de prix. Ça ne s'échange pas, ça ne se troque pas on va pas les changer contre de la monnaie, de la violette ou d'autres choses. Ça a de la valeur. Ça a une énorme valeur. Et à cette époque-là, dans cette famille-là, dans ce contexte-là, ça vaut plus que tous les trésors, plus que tout. Et voici que Jacob, par deux fois, viendra par ruse notamment voler une part de la bénédiction de son frère. La première fois, j'ai presque envie de dire qu'il serait pratiquement excusable parce qu'il va voler à son frère ce que son frère ne veut pas conserver. Donc c'est un demi-vol. Il va réclamer à son frère aîné le droit d'aînesse alors que celui-ci s'en moque. Ça l'intéresse pas, il a l'impression qu'il est tellement fatigué qu'il va mourir, donc à quoi bon l'avenir, à quoi bon le droit d'aînesse, que me servira la bénédiction de Dieu si demain je suis mort? Tu la veux, prends-la, mais donne-moi à manger. Donc ça s'est troqué comme ça, c'est un petit peu bête, mais après tout, on va passer sur le côté important et spirituel et on va rester sur le côté très matériel, très terre-à-terre. On a quelqu'un qui a faim, qui, pour l'instant présent, n'imagine qu'une chose, il me faut manger, et il est prêt à se débarrasser de ce droit d'aînesse. Ça l'importe peu. Néanmoins, c'est quand même une pierre dans son jardin, c'est quand même un caillou dans la chaussure. Il n'aurait pas dû faire cela, mais il l'a fait. Ceci passant, la vie continue. C'est pas ça le plus grave. Le plus grave vient plus tard, alors que leur père, sent que la fin approche et qu'il va mourir, de peur de s'en aller dans son sommeil, crise cardiaque ou autre, il veut préparer, donc il met en forme l'héritage. Héritage. Si vous n'avez pas mis en forme votre héritage, faites-le. Moi, j'ai pas d'intérêt, hein. Mais si vous le faites pas et que demain vous disparaissez, d'ici à ce que tous vos enfants se déchirent parce que c'est pas bien réglé, ce serait dommage quand même. Bref, ferme la parenthèse. Donc, lui, il veut mettre en forme cet héritage. Il veut le mettre en forme. Donc, il a décidé qu'il allait convoquer son fils aîné et lui octroyer la bénédiction qui lui revient. Vous comprenez que on est dans une société, là, dans ce contexte-là, où l'héritage pour l'éternité, pour le ciel, a plus de valeur que toutes les choses de la terre. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la maison, la voiture, le frigo, enfin, bref. Et puis, les choses spirituelles, ça échappe à beaucoup, hein. Mais là, on est sur la chose la plus essentielle. Si vous voulez transposer sur ce qui vous apparaît le plus essentiel dans votre vie, le fait est qu'il fallait, partager l'héritage et il fallait accorder à qui de droit ce qui revenait. Et donc, sur le fils aîné, qui s'appelle pas Jacob, qui s'appelle Ésaü, revient la fameuse bénédiction. Donc, il réclame que son fils aîné aille lui chasser un beau gibier, l'apprête, et le lui servent à manger parce que, visiblement, il aimait bien ça. Hein. C'était un carnassier. Et il s'est dit, une fois que j'aurai bien mangé, je vais bien te bénir. Bon, après tout, pourquoi pas. Et il s'en va chasser. Sauf que la maman, c'est quand même la maman des deux, mais bon, visiblement, il y a une préférence. Elle va envoyer son plus jeune fils, le cadet, en somme, ce sont des jumeaux, mais le cadet, Jacob, en le déguisant, en lui demandant de se faire passer pour son frère. Pendant que l'autre est en train de courir la campagne ou quelque part pour chasser un gibier, dans la cuisine, on a vite apprêté, la maman a apprêté même pour son fils, et il n'a plus qu'à aller avec le plat. Mission périlleuse, parce qu'on peut le reconnaître, etc. Et vous lirez ça. Ça a été tordu, ça a été méchant, ça a été sournois, ça a été moins une qu'il ne soit piégé. D'ailleurs, à un moment donné, le père est un petit peu intrigué. Il faut quand même vous dire qu'il est quasiment aveugle. Ceci explique cela, donc on peut le déguiser. Il peut essayer de maquiller sa voix sans que le père le reconnaisse. Mais le père a un petit doute. Il se dit, c'est bizarre, on dirait pas la voix d'Ésaü, on dirait la voix de Jacob. Écoute, est-ce que tu peux t'approcher juste que je t'embrasse un peu? Histoire de dire, comme physiquement ils n'étaient pas du tout les mêmes, je vais bien voir qui j'ai là. Mais elle avait, la maman, prévu le coup. Et donc, elle l'avait revêtu avec une peau de bête, donc bien poilue, ce que Jacob, visiblement, n'était pas. Bref, donc le maquillage presque parfait. Hein. Et puis, il s'est laissé piéger, le père, et il a béni, donc Jacob pensant que c'était son aîné. Jacob est content, sauf que c'était sans compter sur le frère aîné qui allait rentrer. Et quand le frère aîné rentre, lui, il est au courant de rien. Il va préparer son gibier. Il rentre dans la chambre tout content. « Voilà, papa, je t'ai préparé ce que tu m'as demandé. » Imaginez un peu le choc et tout ce que ça va engendrer. Parce que le père explique que ton frère m'a trahi, j'ai déjà donné la bénédiction, et lui de dire « Mais il y en a quand même une pour moi. Ben, désolé, il n'y a quasiment plus rien. J'ai donné tout ce qu'on avait dans le magasin. Toi, tu auras les soldes. » C'est pas grand-chose, hein. Et il comprend que loin d'avoir une bénédiction, c'est quasiment une malédiction qui lui tombe dessus. Remarquez, il l'avait un peu cherché auparavant, mais quand même, dans l'absolu, on ne va pas disculper Jacob pour les errances de son frère. Le coupable, c'est quand même Jacob. Vous pouvez très bien dire à sa mère, mais tu es folle, on ne va pas faire ça quand même. On ne va pas trahir, je ne vais pas trahir mon père pour ce que, et ton mari pour, ce que tu, pour une bénédiction. Ce n'est pas possible. Il aurait pu refuser cela, mais il a accepté. Et vous imaginez que quand son frère va comprendre que c'est trop tard, il y a des fois, certaines choses, on peut toujours se rattraper. Hein. Et puis il y a des fois, c'est trop tard. Réfléchissez deux fois avant de le faire, même trois, même quatre, même cinq, si vous voulez. Prenez le temps qu'il faut. Parce qu'une fois que c'est fait, on ne revient plus en arrière. Et là, Jacob ne reviendra plus en arrière. C'est fini. Il a tracé sa voie, il a tracé sa route. Ça vous est arrivé de faire de très mauvais choix? Et vous avez tracé votre route. Maintenant, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ce n'est pas possible. Quand Jacob comprend que ça sent mauvais pour lui, il va entendre son frère crier à tous ses dieux que s'il met la main sur son jeune frère, il le tuera, il le tuera. Mais la seule solution, c'est de s'enfuir. Alors, c'est la mère encore qui organise tout cela. Et elle envoie Jacob bien loin. Bien loin de la maison, elle l'envoie quand même dans sa famille, un peu plus loin. Avant de s'en aller, le père va demander une chose à Jacob, d'être vigilant sur son avenir. Il est quand même pas rancunier, le papa, hein, parce qu'il va encore le bénir. C'est le début du chapitre 28. Il va encore le bénir. Et il va même aller jusqu'à lui dire que Dieu, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Je ne sais pas vous, moi j'aurais été à la place du Père, j'aurais dit que Dieu t'humilie, te montre tes erreurs, te montre le mal que tu m'as fait, et qu'après il te relève. Vous n'auriez pas dit ça, vous? Vous êtes trop gentil, vous. Non? Vous ne croyez pas qu'il mérite une leçon, Jacob? Si vous ne le croyez pas, un truc qui tourne pas rond dans votre tête. Oui, il mérite une leçon quand même. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il doit être jugé par rapport à cela. Mais c'est pas l'affaire, visiblement, d'Isaac. Et j'aimerais vous dire que, dans le fond, il n'avait pas tort. Parce que ça, c'est l'affaire de Dieu. Et dans vos problèmes, vous pouvez très bien dire que votre problème, c'est l'affaire de votre voisin, de votre parent, de ceci, de lui, de l'autre, etc. Non, maintenant, c'est votre problème. Et le seul moyen de le régler, c'est vous avec Dieu. C'est plus les autres qui comptent maintenant. De toute façon, le mal est fait, on ne viendra pas en arrière. Et quand Jacob s'en va, donc ça c'était le jour d'avant, c'était un jour triste. Parce qu'il s'en va comme un voleur, on ne lui fait pas la fête quand il s'en va. Il doit même raser les murs hein, pour éviter de croiser son frère, bref, qui est dans une colère folle, folle. Bref, il s'en va la tête basse. C'est triste de voir... Une situation de vie se retourner comme ça. Je trouve que c'est triste. Maintenant, il y a des jours tristes, mais il peut y avoir des jours peut-être meilleurs. Le fait est qu'il ne s'en va pas vers le meilleur parce qu'il a profité de manière très outrancière de la bénédiction de son frère. C'est un nouveau chapitre de sa vie qui va s'ouvrir, mais j'ai même envie de dire que le nouveau chapitre qui s'ouvre devant lui, il n'est même pas formidable. Je m'étonne que quelquefois, certains soient capables de dire que dans la vie, il y a des étapes. Et puis, ils ont vécu quelque chose de pas terrible. Mais maintenant, c'est une nouvelle étape. Et ils imaginent que c'est pas grave, on continue comme ça et ça va mieux aller demain. Il y a des étapes dans notre vie triste, bien décevantes, qui ont du mal à faire et qui ne permettent pas de faire repartir le moteur. On a calé, on se sent pas bien. Il faut qu'il se passe autre chose que de dire « J'ai refermé la valise, je prends un billet d'avion et je m'en vais. » J'ai connu quelqu'un comme ça qui, pendant des mois, à voyager sans savoir vers où il allait. Il allait à l'aéroport, il prenait un billet d'avion, peu importe où ça le rendait. Et il a fait quasiment le tour du monde comme ça. Mais à bien le connaître, cet homme fuyait. Il fuyait sa maison, il fuyait son quotidien, il fuyait sa famille. Il ne voulait plus les voir. Alors il partait, mais il ne savait pas où aller. Non, que ici et là, il a travaillé, il a bricolé dans des ports, sur des bateaux, etc. Il a fait le tour du monde, mais il n'était pas satisfait. Je ne peux pas croire que Jacob va fermer cette partie de son histoire en disant « Allez, on oublie tout, reset, on remet tout à zéro, les compteurs à zéro et on repart comme si de rien n'était. » C'est pas possible. C'est pas possible. Même si vous aviez pensé que c'était possible de tout oublier, de repartir comme si de rien n'était, vous vous trompez. C'est pas possible. On garde cela. On le garde. Et quelquefois, ça peut même nous poursuivre un peu là où on s'en va. Il y a certaines étapes dans la vie qui sont excitantes, d'autres qui sont décevantes. Peut-être que certaines seraient angoissantes. La réalité, c'est qu'aucune de ces étapes de votre vie ne vous a laissé indifférent. Ça a provoqué quelque chose. En bien, en mal, positif, pas positif, ça a provoqué quelque chose. Ça, c'était le jour d'avant. Et puis, il arrive à ce fameux endroit, Charan. Pas confondre avec Charance. Charan. Et là, il va se reposer parce qu'il est tard. Donc, il va se mettre, il va se trouver un endroit où il peut se tenir. Et c'était quand même, j'imagine, quelqu'un d'assez rugueux, parce qu'il a même trouvé une pierre pour en faire un oreiller. Il faut avoir quand même la nuque solide hein, et le crâne bien fait pour prendre une pierre et dire « Allez hop, je dors dessus ». Bref, il a dormi, visiblement relativement bien dormi. Sauf qu'il y a des choses qui l'ont troublé pendant la nuit. Il y a cette fameuse vision. Je me dis que Jacob, et j'appellerai cette nuit une nuit de transition, c'est là où ça va se jouer finalement. Jacob est pris entre deux feux. C'est-à-dire, ce qu'il sait et ce qu'il croit. Ce qu'il sait, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il en dit ? Visiblement, ça ne semble pas trop l'émouvoir. On ne l'a pas vu courir vers son frère en disant « Pardonne-moi, 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 j'aurais pas dû ». Non, non, absolument pas. Je m'étonne, c'est repris dans le livre des Proverbes, je m'étonne de ces personnes qui sont capables de commettre le péché et puis de s'essuyer la bouche comme si de rien n'était et de recommencer à vivre. Tout va bien. On est étonné comme il est possible pour certains d'oublier les échecs, d'oublier les mauvais choix, d'oublier les mauvaises attitudes. On oublie tout et on continue. Ce qu'il a fait, ce que Jacob avait fait était condamnable. Maintenant, on ne sait pas trop ce qu'il en pense. En tous les cas, la vérité, c'est pour que ça change, il faut qu'il se passe quelque chose dans son cœur. Retenez bien ceci cet après-midi. Pour que ça change dans votre vie, il faut qu'il se passe quelque chose dans votre cœur. Pas autour de vous. Et tant mieux si demain vous arrivez au boulot et que le patron vous dise « J'ai passé une bonne nuit ou une mauvaise nuit, mais j'ai eu une idée, je double votre salaire. » Tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui va changer votre vie. Ce n'est pas ça qui va tout changer au fond. Pour que ça change dans votre vie, il faut que ça change dans votre cœur. C'est comme ça que ça commence. C'est là que se trouve la clé. Et on se rend bien compte que Jacob est un peu pris entre deux feux parce que pour qu'il ouvre son cœur, il doit comprendre plusieurs choses. La première de ces choses-là, c'est que Dieu l'aime. Il a besoin de savoir que Dieu l'aime. Il a besoin de savoir que Dieu est là. C'est un fugitif. Il s'enfuit. Mais où qu'il aille, Dieu sera là. Où qu'il se cache, Dieu sera là quand même. Je me souviens de cet ami qui avait déménagé il y a 20 ans de ça. Et dans son déménagement, entre deux, il avait laissé quelques cartons à la cave de l'église. Et donc plusieurs cartons. Et dans cette cave, beaucoup allaient parce qu'il y avait beaucoup de choses, du matériel, etc. Donc ça, c'était une ruche dans cet endroit-là. Mais lui, on lui avait dit, écoute, pose tes cartons-là en espérant que personne ne les touche, on regarde ce qu'il y a dedans, etc. Alors il était un petit peu tracassé, puis il avait trouvé la solution. Il a mis ses cartons, il a pris un marqueur et il a écrit, c'était pas un français, donc avec son français, il a écrit « Touche pas, Dieu te voit ». Avec ça, il était tranquille. Hein. Personne n'allait toucher les cartons. Hein. « Touche pas, Dieu te voit ». Où que vous alliez, Dieu vous verra. Vous vous cacherez pas. Il peut se cacher de son frère, il peut s'en éloigner, Il peut même disparaître et aller à 5000 kilomètres, émigrer en Australie s'il veut. Et son frère n'ira pas le chercher là-bas. Mais Dieu est à côté quand même. Dieu est là. Jacob doit comprendre que Dieu est là. Et surtout que Dieu a un plan pour sa vie. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que le plan de M. Jacob est sorti de l'entreprise Jacob & Co. C'est lui qui l'a imaginé. C'est lui qui a imaginé son avenir. C'est lui qui a vu comment il voyait son avenir. Je vais prendre le droit d'aînesse, j'aurai la bénédiction de mon frère, Dieu va me bénir et voilà ce que je ferai de ma vie. Et d'ailleurs, plus tard, on retrouve un petit peu ces espèces de défauts chez Jacob. Mais ce qui va changer pour vous, c'est pas de vous dire « bon, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ?» Ce qui va changer, c'est à partir du moment où vous comprendrez que Dieu a un plan pour votre vie. C'est ça qui va faire la différence. Je vous dis, je vous affirme, Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a, depuis toujours, prévu un plan pour votre vie. Et si vous me dites que jusqu'à présent, ça a plutôt été un mauvais plan plutôt qu'un bon plan, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est bon. Je connais les projets que j'ai sur vous, dira Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Jacob est mal parti, hein. Il n'est pas sur la voie que Dieu avait choisie. Il n'a choisi que la sienne, celle du mensonge, celle du vol et celle des eaux troubles. Il va comprendre, Jacob, que Dieu est un Dieu de compassion, que Dieu est un Dieu de miséricorde et que Dieu est un Dieu de bonté. On peut être, vous savez, très loin de la maison, de sa famille, de ses repères, sans pour autant être séparé du ciel, hein. Il y en a d'autres, ils sont très près de leur famille, mais très loin de Dieu, très loin du ciel. Certains sont très près de leur religion, mais très loin du ciel quand même. D'autres sont très près, consciemment, avec leur conscience, de ce qu'ils appellent la droiture, la vérité, la justice, et cependant, ils sont très très loin du ciel. Le plus important, c'est d'être près du ciel, même si on est loin de tout le reste. Et lui, petit à petit, s'en va bien loin de sa famille. Mais il peut apprendre ce jour-là, que même s'il est loin, il sera quand même près du ciel, parce que à quelque endroit que vous vous placez sur la planète, le ciel est toujours au même endroit. Hein. Le ciel est toujours au même endroit. Il n'est pas plus loin que vous soyez ici ou en Chine. Il est toujours au même endroit. Quelque part, Dieu est partout et Dieu ne sera jamais loin de vous, à moins que vous ne préfériez vos plans aux siens, auquel cas vous l'éloignerez de votre vie et bien sûr, il sera plus loin. Cette nuit de transition va apprendre à Jacob une chose, il fallait accepter le fait que Dieu allait veiller sur lui. Et ce n'était pas évident pour Jacob, ou en tous les cas, ce n'était pas intuitif, ce n'était pas inné ça. Dans l'Épître aux Hébreux, on a une explication de ces anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Il a eu une vision un petit peu trouble, une échelle accrochée au sol, et rien la tient en haut, mais finalement elle est accrochée au ciel, et des anges qui montent et qui descendent. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit ceci, en parlant des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Amen. Ça confirme une chose, c'est que Dieu a décidé de ne pas abandonner Jacob. Et je voudrais que vous soyez certains d'une chose, c'est que Dieu n'a pas prévu de vous abandonner. Que vous ayez décidé de le laisser tomber, c'est un fait. Mais Dieu n'a pas prévu de vous lâcher, de vous abandonner. Ceci étant, puisqu'il y a eu le jour d'avant et qu'on est dans la nuit et qu'il va y avoir l'aurore qui va arriver dans peu de temps et qu'un jour nouveau arrive, ça sous-entend qu'il faut que ce soit une vraie page qui se tourne, une vraie nuit de transition. C'est comme si ce Jacob devait mourir à ses illusions, à ses prétentions, pour renaître dans la foi, c'est-à-dire en mettant sa confiance en Dieu, alors que jusqu'à présent il ne l'avait pas fait. Mettre totalement sa confiance en Dieu. C'est ce qui va se passer, finalement, pour reprendre une expression du Nouveau Testament, il faut naître de nouveau, je ne peux pas dire renaître, mais naître à nouveau, il faut mourir pour ça. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, forcément, il n'y a pas de résurrection. Donc il fallait bien que ce vieux Jacob, tordu, méchant, injuste, très personnel, très égoïste, il fallait qu'il meure, ce Jacob-là, pour que naisse celui que Dieu avait prévu de toute éternité. D'ailleurs, il en changera le nom, il l'appellera Israël. Il fallait qu'il naisse. Mais pour naître, c'est l'histoire du papillon, la chenille. Il fallait vraiment qu'il se passe une transformation radicale. Vous ne pouvez plus reconnaître l'ancien du nouveau. Il y avait une réelle transformation. Je me dis que c'est ce qui est arrivé. Pour repartir, Jacob a dû être arrêté. Et vous connaissez l'expression, il se peut qu'il y ait des lendemains qui chantent. Eh bien, ça a chanté dès le lendemain matin pour Jacob. Parce que quand il s'est réveillé, il y a eu un petit moment de perplexité quand même, de trouble, parce qu'il a réalisé que Dieu était là. L'Éternel est dans ce lieu, moi je ne le savais pas. Il a eu peur, parce qu'évidemment, se trouver en présence de Dieu avec, je veux dire, le solide dossier qu'il avait sous le bras, c'était quand même pas facile. Il y avait quand même de quoi le lui reprocher pas mal de choses. Donc, ce n'est pas évident de se retrouver devant Dieu dans une condition pareille. Sauf que, à partir de ce moment-là, il réalise qu'il doit franchir une porte. Et cette porte, c'est la porte des cieux. C'est en quelque sorte ce lieu qu'il va nommer, débaptisé de ce fameux Luz. Il va l'appeler Bethel. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ce jour-là, Jacob est devant une porte. Soit il passe cette porte, soit il franchit le seuil de ce nouveau départ dans sa vie, soit il fait marche arrière. Il est vraiment à la porte. Et il va prendre la bonne décision. Parce qu'il nous est dit que quand il va réaliser ce qui venait de se passer, il va prendre son fameux oreiller, il va le dresser comme un monument perpétuel. Il va verser de l'huile sur ce monument qui devient une pierre sacrée, en somme, et il va prier. Finalement, c'est vraiment un lendemain, hein. C'est vraiment un lendemain nouveau, hein, parce qu'il se réveille rempli de volonté, entre guillemets, spirituelle. Jusqu'à présent, il n'en avait pas trop eu, hein, même s'il avait mélangé le spirituel aux traits humains et très charnels. On comprend que maintenant, il a une vision un peu plus élevée. Ça semble être la première fois qu'il va dire merci à Dieu. Il a piqué un droit d'aînesse, il a piqué une bénédiction, il a volé tout ça, il n'a jamais dit merci à personne. Là, il va dire merci à Dieu. Et même si sa prière est un petit peu audacieuse, certains diraient que, bon, elle est un peu tordue, hein, parce que vous avez remarqué que dans sa prière, il y a beaucoup de si. Hein? Si vous priez avec des si, si et seulement si, ça ne marchera pas. Dieu ne vous doit rien. Hein? Vous n'allez pas faire un deal avec Dieu quand même. Vous n'allez pas marchander avec Dieu, vous n'allez pas oser faire ça. Vous dites non, 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 je ne le ferai jamais, mais si, vous l'avez fait des dizaines de fois. Vous l'avez fait des dizaines de fois. Si Dieu me guérit, je me convertis. Par exemple. Si je sors de cette difficulté en 24 heures, alors là, je crois. Mais vous faites quoi d'autre que ce qu'il a fait? Rien de mieux, hein? Vous faites exactement pareil. Avec Dieu, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de condition. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Mais regardez la bonté infinie de Dieu. Parce que le Jacob, il est encore un peu têtu. Hein. Il est encore un peu bizarre. Hein. Il y a encore des choses qui ont besoin d'évoluer quand même. Il y a des choses qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas saisi. Et Paris ne s'est pas fait en un jour, évidemment. Il a besoin d'apprendre et il apprendra. Sauf que, même si sa prière semble surprenante, si je retourne en paix à la maison de mon père, ce n'est pas gagné avec tout ce que je vous ai raconté. Hein. Si Dieu me garde, si Dieu est avec moi, qu'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix. Bref, il veut tout. Le beurre, l'argent du beurre et la laiterie derrière. Il veut tout. Tout. C'est scandaleux. À vrai dire, c'est scandaleux. Mais après tous les scandales qu'il a vécu, c'est le moindre, c'est le cadet de ses soucis. Hein. Je ne pense pas que ça l'enquiquine plus que ça. Mais Dieu va aimer l'attitude de Jacob, manifestement. Dieu va accepter, agréer la prière de cet homme, même si ça paraît très terre à terre, même si ça paraît pas du tout spirituel. Mais en fait, ça va marcher. Parce qu'on a l'impression que cet homme est en train de se placer sur le terrain de la foi. Vous comprenez qu'il est en train de dire à Dieu, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai rentrer. Ça va mettre plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Je ne sais pas dans quelles conditions je vais rentrer. Je ne sais pas quel sera mon avenir. Mais si j'arrive à traverser tout ça, alors le Dieu de mon père et de mon grand-père deviendra mon Dieu. C'est une prière qui est faite dans la foi. Dieu a vu la sincérité de son cœur. Nous, on a du mal à transcrire ça. On pourrait se dire, oui, je le connais, il est tordu, il fait semblant. Mais Dieu sait lire dans votre cœur. Dieu sait exactement ce qu'il y a dans votre cœur. Si en ce moment vous pensez vrai ou faux, si en ce moment vous dites vrai ou faux, Dieu le sait. Les autres, on peut les tromper, on peut les abuser. Dieu, non. Il sait exactement où vous en êtes et qu'est-ce qui se passe là dans votre cœur. Et dans le fond, il fait cette prière au bon endroit. Il est à la maison de Dieu. C'est un bon endroit, puisqu'il a appelé cet endroit du lieu où il a rencontré Dieu, Bethel, la maison de Dieu. La conclusion de tout cela, c'est qu'il vient de franchir une porte. Il y a eu le jour d'avant, bien triste. Il y a eu la nuit de transition qui a été une nuit de découverte pour lui. Il réalise que des anges vont et viennent et qu'il n'est pas seul. Et que Dieu s'occupera de lui. Et que Dieu le conduira et que Dieu le bénira. Et que Dieu sera toujours à ses côtés. Et que Dieu a un plan pour sa vie. Et quand il se réveille le matin, c'est le jour d'après. Et le jour d'avant, c'est le jour d'après. Et ce n'est pas le chaos. C'est un lendemain qui chante. Pour lui, il y a quelque chose qui vient de s'éclairer dans son esprit. Il y a quelque chose d'évident qui vient d'apparaître. Quelqu'un a dit que c'est quand la nuit est la plus sombre que les étoiles sont le plus brillantes. C'est certainement là, dans cette nuit, où il était au plus profond du puits. Et c'est là qu'il a vu les promesses de Dieu comme des étoiles briller au-dessus de sa tête, comme jamais. Jamais il avait vu ça. Mais ce jour-là, il l'a vu. C'est peut-être, certainement, quand on est désespéré, qu'on va crier à Dieu avec le plus de foi. C'est certainement quand on n'en peut plus, quand on est écrasé, écrabouillé, quand on a envie que tout s'arrête, que l'on va supplier Dieu avec un cœur, cette fois-ci, jamais autant sincère, certainement. Mais ce n'est pas grave. Dieu va vous tirer du puits. Dieu va vous sortir de cette difficulté. Il vient de franchir une porte, alors 20 ans vont être nécessaires pour transformer radicalement ce Jacob en Israël. Et Dieu le rencontrera 20 ans plus tard. Il est passé de Bethel à un autre lieu qui s'appellera Péniel. J'ai vu la face de Dieu. Après être entré dans la maison de Dieu, il a vu Dieu. Il a vu sa face. Il a compris que Dieu était là et pouvait avoir un face-à-face ensemble. Il a lutté avec Dieu. Il en est sorti vainqueur. Finalement, tout s'est joué en 24 heures. Au bout du compte, c'est au bout de 20 ans qu'on a pu inscrire tout ce qui s'est passé pendant ces années-là. Parce que, bon, il n'est pas encore sorti d'affaire. Quelque temps plus tard, il va rouler son beau-père, mais il se fera rouler lui aussi, de toutes les manières. Donc, ce que vous faites aux autres, ils vous le feront un jour. Des hommes aussi malins que vous, il y en a certainement d'autres. Donc, il a appris ça. Mais je remarque, parce que ce qui compte, c'est la fin de l'histoire, finalement. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a devant vous, hein, c'est pas ce qu'il y a derrière. Même si vous dites, non, moi, ce qui m'a blessé à vie, c'est ce qu'il y a derrière. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire demain, alors ? Il faut regarder devant. Et devant, le plan de Dieu est encore ouvert. Le plan de Dieu est encore disponible. Dieu peut encore faire quelque chose pour vous. Regardez ce que Jésus fait en donnant sa vie à la croix. Il vous assure, il vous dit qu'il vous aime d'un amour parfait. Il vous dit qu'il pardonne vos erreurs. Il vous dit qu'il efface votre péché. Il vous dit que même si vous avez été pire que, si vous avez fait pire que pendre, c'est pas grave. Dieu pardonne. Dieu vous exauce. Dieu entend votre prière et Dieu va vous relever. C'est ça que Dieu est capable de faire. Que cet après-midi, vous en soyez persuadés. Tout peut changer en 24 heures. En 24 heures, tout peut changer. Il peut y avoir un soir et il doit y avoir un matin. Il y aura certainement un soir, mais il faut qu'il y ait un matin et que ce matin ouvre vos yeux vers le ciel, pas vers l'enfer, mais vers le ciel. Que vous soyez sauvés, délivrés, transformés. C'est pour ça que Jésus est mort, s'il y a eu un soir. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité, le tombeau a été vide et qu'il est monté au ciel. Il y a eu un nouveau matin. C'est l'étoile du matin qui brille, c'est celle qui brille encore aujourd'hui. Jésus est votre sauveur. Prenez-le comme cela. Saisissez-le et vous verrez qu'en 24 heures, tout va changer. Humainement parlant, ce n'est pas possible.
Mais là, on est sur le terrain de la foi et on croit qu'à Dieu, tout est possible. Amen. On va prier pendant quelques instants, s'il vous plaît. On peut s'incliner ensemble et demander à Dieu sa grâce. Alléluia. Amen. Venons devant toi, Seigneur, et nous te remercions pour ta fidélité. Nous te rendons grâce et nous te louons pour toutes tes bontés, parce que tu te révèles comme un Dieu de miséricorde. Quand je lis ce qui s'est passé pour cet homme, ça s'est joué en quelques heures. Quelle grâce! Pendant des années, il s'est mal comporté, il a mal agi. Finalement, pendant tout ce temps où il n'a eu de cesse que de prendre ce qui n'était pas à lui, et quelque part, même s'il sentait au fond de lui une motivation, quelle qu'elle soit, je remarque que c'est un homme en fuite que Dieu arrête et que Dieu aime. C'est un homme en fuite que Dieu interpelle pour lui parler d'avenir et d'espoir. C'est un homme, un fuyard, un homme à qui on peut tout reprocher, vers qui Dieu se tourne pour lui parler de sa miséricorde et de son amour. Je prie que quelqu'un soit béni cet après-midi, celui qui ne te connaît pas bien, celui qui est loin de toi, celui qui semble assez proche du ciel, mais qui n'y est pas entré encore. Seigneur, s'il te plaît, apporte la liberté, apporte la délivrance, glorifie-toi dans ses cœurs et dans ses vies, dans le nom de Jésus. Amen. On va rester un moment dans la prière. On va demander à Dieu sa grâce. On va lui demander de vous bénir, vous qui avez besoin de son secours, de sa bénédiction. On va lui demander qu'il intervienne dans votre vie. On va lui demander qu'il manifeste sa bienveillance pour vous. On va lui demander tout simplement qu'il vous guérisse, qu'il guérisse les plaies de votre cœur. Je ne parle pas d'un problème physique, je parle de quelque chose de moral, quelque chose d'intérieur. C'est votre cœur qui a été brisé, c'est votre cœur qui a été violenté, c'est votre âme qui a été méprisée. C'est là qu'est le problème. C'est là que Dieu veut intervenir, c'est là que Dieu veut agir, c'est là que Dieu veut se manifester. Alors on veut croire qu'il va agir maintenant et qu'il va glorifier son nom dans votre vie. J'aimerais prier pour votre guérison, guérison intérieure. Tout est possible à Dieu. J'ai dit 24 heures, mais je pourrais dire 5 secondes. C'est pareil, tout est possible à Dieu. Ne repoussez pas la main que Dieu vous tend cet après-midi. Il veut vous guérir, il veut le faire. Donc j'aimerais prier pour vous qui êtes dans une situation comme cela, besoin de paix, besoin de délivrance, besoin de savoir que vous êtes dans la maison de Dieu, dans la main de Dieu, que vous êtes protégé par ce Dieu-là et qu'il va s'occuper de vous. J'aimerais prier pour vous.